Bonjour et bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous de France Inter, du journal Le Monde et de France Info, édition spéciale après les mesures exceptionnelles qu'annonçait le Premier ministre pour faire face au Covid-19 et à cette crise sanitaire inédite. La plus grave depuis un siècle, disait cette semaine le président de la République. Le stade 3 est maintenant déclaré, vous le savez. Dans les hôpitaux, on se prépare à une propagation massive de l'épidémie. En direct avec nous jusqu'à 13h, celui qui est aux commandes du premier groupe hospitalier de France, 39 établissements, près de 10 millions de patients accueillis chaque année en temps normal. Le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, est notre invité ce dimanche. Pour intervenir, le hashtag #QuestionPol ou l'application mobile France Inter.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Martin Hirsch.
Bonjour Ali Badou.
Merci d'être avec nous ce dimanche. Votre parole est très attendue pour faire le point sur cette crise sanitaire. À mes côtés, Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Nous respectons les distances de sécurité dans ce studio, pas de risque de contamination. Je le dis avec le sourire, mais on va parler de choses très sérieuses. Et avant d'en venir aux hôpitaux, qu'est-ce qui explique que tout a basculé hier autour de 19h, quand le Premier ministre a décidé qu'on passait au stade 3 et qu'il fallait maintenant des mesures exceptionnelles?
Ça bascule pas hier. Et effectivement, cette semaine est charnière et la deuxième moitié de la semaine a été charnière. Moi, j'ai vu les différents experts changer de ton en voyant les données chiffrées, hein, sur c'est ce que j'indiquais hier, sur le pourcentage de positifs parmi les tests qui remontaient, de voir que nous avons eu le début de la montée des cas dans les réanimations, que nous avons vu aussi que la diffusion du virus se continuait spontanément.
Oui.
Et donc ont été travaillées les différentes courbes si on ne fait rien. Et donc c'est... Les scientifiques sont venus voir, jeudi ils étaient chez le président de la République, vendredi ils continuaient à dire si on ne fait rien, on va être dans une situation qui est effectivement catastrophique. Voilà. Donc il s'est passé quelque chose entre jeudi et vendredi.
Et c'est assez paradoxal, Martin Hirsch, parce que la décision a pris tout le monde de court. On a eu l'impression d'annonces surprenantes d'Edouard Philippe. Et d'un autre côté, beaucoup disent ça arrive trop tard. Il y avait l'exemple italien, on aurait dû y arriver plus vite. Où est la vérité?
Je ne sais pas dire la vérité. Ce que je sais, non pas parce que je n'ai pas envie de la dire, c'est que les types qui prétendent avoir la vérité absolue, sont des prétentieux. Et d'ailleurs, vous verrez, c'est un des sujets, y compris chez les experts. Hein, on voit les mêmes experts qui sont de temps en temps plutôt rassurants, les mêmes. C'est très frappant dans cette crise. Les mêmes. Il y a pas deux camps. Il y a deux camps au sein parfois du même cerveau.
Mmh. Hein,
on en a vu dire attention, on en fait trop parce que c'est la grippe, puis tout d'un coup on en fait pas assez et cette oscillation. Je pense que maintenant ces oscillations sont finies. Il y en a pas un seul et il y a pas un bout de cerveau d'expert qui ne pense pas que la situation est grave et nécessite les mesures les plus fortes. Et mon deuxième message, vous avez dit, est-ce que c'est trop tard? On peut se demander si telle ou telle chose est tard ou pas. Ça n'est pas trop tard.
Non.
Si j'ai un message à faire passer à tous ceux qui nous écoutent, c'est beaucoup. Il y avait une forte pression pour dire avant que ça serait trop tôt de le faire. Le côté, c'est trop tard et du coup, je n'en tiens pas compte, est quelque chose qui peut avoir des effets mortels. Donc, il faut faire le maximum. C'est maintenant, c'est tous, c'est beaucoup, c'est fort.
Alors, je vais revenir sur vos termes. Si on ne fait rien, la situation peut être catastrophique. En quoi est-elle catastrophique ou peut-elle être catastrophique?
Alors, elle peut être catastrophique parce que si la courbe de l'épidémie suit un mouvement naturel, quand je dis mouvement naturel, c'est-à-dire que les gens continuent à faire la vie quotidienne, à se voir, à avoir des moments de regroupement.
Encore hier soir.
À ce moment-là, le moment où une large partie de la population sera contaminée arrivera vite et haut. Et donc, il y a un sujet et c'est ce que disent les autorités sanitaires. Je me souviens du ministre faire le petit graphique en disant le sujet n'est pas de savoir.
Olivier Véran sur BFM TV.
Ouais, s'il y aura 20 ou 30 millions de personnes qui seront porteurs du virus, c'est de savoir quand et est-ce que c'est en même temps. Donc, tout est fait pour étaler les choses.
Ce que vous dites, c'est que les Français ont été irresponsables jusqu'à présent. que beaucoup de Français ont été irresponsables et n'ont pas pris la mesure
de l'épidémie. Je ne vais pas les qualifier d'irresponsables, y compris moi-même. Moi, je suis en train de changer mon comportement. J'ai évoqué tout à l'heure, j'étais au maquillage.
Oui.
Il y a quelques jours, j'aurais pas fait attention. Et là, j'ai dit à la maquilleuse de se mettre plus loin de moi, etc. Des choses que je faisais pas il y a trois jours. Donc, dire qu'il y en a quelques-uns qui étaient irresponsables et d'autres qui seraient responsables, ça n'a pas de sens. La question, c'est d'être tous responsables maintenant.
Vous voyez, en l'occurrence, c'est vrai que nous avons pris toutes les précautions pour que le maquillage et que tout se passe dans un studio.
Et il en faudra peut-être encore plus. Peut-être. Ouais. En rentrant, je me suis dit, est-ce que je dis, finalement, je préfère être pas maquillé que maquillé.
Voilà. Est-ce que les Karine mesures Becker. Qui ont été annoncées hier soir sont celles qui étaient attendues, qu'il fallait, est-ce qu'elles étaient nécessaires, indispensables? Et est-ce qu'il y a encore un autre niveau de mesures qu'on peut attendre et qu'il va falloir mettre en place, et donc quand?
Je ne sais pas vous dire est-ce qu'il va falloir les mettre en place. Ce que je peux vous dire, les mesures hier ont été attendues. Fermer les cafés, les restaurants, les commerces qui ne sont pas utiles vitalement. C'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus de prétexte pour aller se retrouver à plusieurs dans le même espace sont des mesures extrêmement utiles, importantes.
Ça aurait dû être pris dès jeudi soir, par exemple. C'est surprenant que ça n'arrive qu'hier soir.
Non, parce que là aussi, ça se prépare. C'est très bien que ça soit fait pendant le week-end. Parce que chaque mesure, en plus, a son effet. Regardez la mesure sur l'accès à l'école des crèches, la fermeture. C'est mieux de l'annoncer jeudi pour lundi, y compris pour toutes les questions sur lesquelles on a travaillé comme des fous pendant tout vendredi. C'est d'assurer la garde d'enfants des soignants.
En revanche,
parfois la précipitation. Ensuite,
d'un point de vue sanitaire, maintenir les élections municipales.
Attaquer critiquer le gouvernement. Je suis pas dans une position d'observateur, d'analyse, position d'acteur. Dans la position d'acteur. Peut-être qu'un jour, les historiens diront, si on avait pris telle chose 4 jours avant, on aurait eu tel ou tel truc, et peut-être qu'ils ont raison. Là, on fait pas de l'histoire pour le futur, on fait de l'efficacité pour aujourd'hui, demain, et les semaines longues qui viennent. Là-dedans, prendre des mesures le week-end pour qu'elles soient, vous avez vu, casser tout de suite l'accès au café-restaurant, très bien, que d'autres choses soient prêtes pour lundi. Et dedans, leur efficacité dépendra de notre comportement à tous.
Il faut se préparer à combien de temps? Vous parliez de semaines?
Oui, de semaines, oui.
De mois?
Oui.
Combien, a priori?
Je ne sais pas vous dire.
Selon les modèles mathématiques.
Parce que, paradoxalement, je préfère que ça soit plus long et moins pentu que super pentu et court. Voilà.
Si on dit 2 mois, 3 mois?
C'est de cet ordre d'idée, je pense. Mmh. Je pense. Attention, je vous dis le moment où je peux pas vous dire avec certitude, je pense.
Toujours pour de l'information pratique, on est rentré depuis hier soir en stade 3. Est-ce que pour les patients ou pour les personnes qui craignent d'être infectées, le processus d'alerte de son médecin ou de l'hôpital est le même, ou est-ce que ça change quelque chose?
Pour l'instant, on est en train de renforcer celui qu'on a mis au point ces derniers jours. C'est-à-dire de permettre, et donc on l'a testé avec des patients qui sont passés par l'assistance publique cette semaine, de pouvoir leur donner accès à une application. Ça marchera pas pour 100% parce que tout le monde n'a pas un smartphone, mais notre sujet est de permettre au plus grand nombre, pour qu'on puisse se concentrer sur les cas un peu plus particuliers, avec un smartphone, d'avoir accès à un questionnaire qui permette de ne pas avoir à s'occuper à l'hôpital ou chez le médecin, directement dans le cabinet du médecin, de quelqu'un qui peut être porteur du virus, qu'il puisse savoir qu'il est suivi, qu'il y a au bout de l'application qui s'appelle Covidom, quelqu'un qui voit tous les signes d'alerte quand on remplit bien le questionnaire. Je respire plus vite, ma fréquence cardiaque s'accélère, j'ai de la fièvre, des choses comme ça. À ce moment-là, ils sont rappelés et ils sont pris comme des cas qui nécessitent d'être pris en charge.
Alors ça, c'est opérationnel pour
ça? Ça, c'est opérationnel aujourd'hui. Donc, c'est opérationnel aujourd'hui. Il y a quelques centaines de personnes qui sont inscrites dedans. Et cet après-midi, on s'organise de voir comment on peut étendre cette application.
Mais alors,
plus largement.
Quelles consignes donner, Martin Hirsch, aux personnes qui ressentent des symptômes qui pourraient correspondre au Covid-19? Est-ce qu'il faut aller voter, malgré tout, rester chez soi, d'un point de vue sanitaire? Qu'est-ce que vous répondez?
D'un point de vue sanitaire, je vais commencer par une formule générale. L'héroïsme face au Covid.
Ça sert à rien.
Comment ?
Ça sert à rien.
Non, l'héroïsme, c'est de se protéger, de se confiner, c'est pas d'être bravoure. Je vais le dire parce que dans la psychologie, parfois, y compris chez les soignants, il y a l'idée « je suis invincible dans ce virus » qui a une caractéristique particulière, c'est qu'à part quelques personnes qui ont des microscopes électroniques, personne ne l'a vu. Et aujourd'hui, on est dans une situation un peu décalée, parce que je pense que personne d'entre vous ne connaît quelqu'un qui a été en réanimation et d'une situation grave. Donc ça reste abstrait. Donc quand c'est abstrait, on se dit, moi je vais montrer que je suis plus fort, parce que ça c'est la connerie. Être courageux, c'est de capable de renoncer, c'est de capable de paraître celui qui fait très attention. C'est le contraire des schémas actuels. Voilà. C'est pour ça quand on dit dans une situation de guerre, le héros, c'est celui qui ouvre sa chemise, qui va devant pour montrer l'exemple. Montrer l'exemple, c'est donner l'impression d'être précautionneux.
Ça ramène aux municipales. Si on reste limité au strict champ sanitaire, est-ce que c'était vraiment raisonnable de maintenir le premier tour des élections municipales ce dimanche et le deuxième tour dimanche prochain?
Alors, on ne sait pas ce qui va se passer pour le deuxième tour dimanche prochain. Dans l'ordre. Il se trouve que les élections municipales ont eu. Je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent, ils y sont exprimés. Il y a des médecins qui ont dit qu'il aurait mieux fallu l'annuler, d'autres non. Dans ce conflit compliqué entre continuité des institutions, qui sont des choses importantes, parce que la stabilité de la République et des institutions républicaines, c'est important aussi. Est-ce qu'on aurait frappé un peu plus les esprits en annulant le premier tour? Il y a des gens qui pensent oui, des gens qui pensent non. Moi, je fais partie des gens qui
est-ce que
qui
simplement
pas
vous avez été surpris,
Karine Becker.
Est-ce que simplement ça vous a surpris qu'elles soient maintenues, ces élections municipales?
Je trouve que la question pouvait se discuter légitimement. Ensuite, dans cette période de crise, les gens comme moi qui sont aux commandes d'un service public, je vais pas alimenter la machine à polémique. Les uns et les autres le font, moi je l'alimente pas sur ce sujet-là. Voilà, ça, je respecte les deux positions.
Mais vous
qui
dites
sont
au fond
été...
tout est possible pour le deuxième tour. Au fond, il peut très bien y avoir une annulation au milieu.
Il peut y avoir une annulation au milieu, absolument. Je dis pas il va y avoir. Je pense qu'il peut parce que, comme vous avez vu que cette semaine les choses ont évolué. Peut-être que dans deux jours...
Vous le dites de manière nuancée, l'épidémie a explosé, on peut le dire. Les chiffres ont augmenté.
Non, elle n'a pas explosé. Elle n'a pas explosé, elle est sur une pente, on est au début de la pente. Elle aurait explosé. Elle n'a pas... On n'est pas dans un phénomène d'explosion, on est dans un phénomène d'acceptation. Quand je regarde, par exemple, aujourd'hui, j'ai plus de lits disponibles dans mes réanimations que de lits de réanimation pris par des patients Covid+. Donc je ne suis pas dans l'explosion. Mais donc dans les jours qui viennent, je vais vous donner des exemples. On peut être très précis.
Oui, et très concret.
On était hier avec les experts. Le télétravail a un impact majeur. Donc le télétravail doit se faire, le Premier ministre l'a dit, même si vous n'avez pas l'accord complet, si ce n'est pas organisé, s'il n'y a pas dans la convention collective exactement prévu le nombre de jours de télétravail, etc. Télétravail le plus possible. Au siège de la paix, on va télétravailler. Sauf ceux qui sont obligés de se voir pour Covid, parce que s'ils télétravaillaient, ça ralentirait notre capacité d'agir et de commander cette maison.
Oui.
Mais les autres vont télétravailler. Demain, j'avais un comité technique d'établissement. C'est très important, les comités techniques d'établissement, parce que c'est le lien avec les partenaires sociaux. S'ils veulent qu'on se parle au téléphone, et ça durera, on pourra pas le faire aussi long que d'habitude, parce qu'on doit se concentrer d'une chose, on le fera, mais je les mets pas dans la même salle. Télétravail extrêmement important. Et je l'ai vu sur les courbes, je pense qu'elles seront publiées dans quelques temps, de montrer comment, si on simule le passage de la situation actuelle où il y a à peu près en moyenne 5% des gens qui télétravaillent à une situation où on passait à 50%, là, on aide les hôpitaux à pouvoir faire face aux malades. C'est des choses aussi pratiques que ça. C'est ces messages-là qu'il va falloir marteler, et on verra vite s'ils ont l'effet.
Donc finalement, ce que vous dites, et c'était ma question précédente, c'est si finalement on confine un maximum les gens, si on arrête les déplacements, si on les stoppe même complètement, on réussit vraiment à frapper un grand coup et à ralentir fortement l'épidémie. Donc
frapper un grand coup, c'est le bon terme.
Martin Hirsch.
Mais alors, frapper un bon coup par les mesures pour éviter que ça soit le virus qui frappe un sale coup.
Donc pourquoi ces mesures-là ne sont pas déjà prises, j'ai presque envie de dire.
Elles sont prises là, mais la question, si vous voulez, ensuite, chaque question...
Frapper un grand coup, c'est le stade 3, c'est la vie confinée, pour le dire très rapidement.
c'est la consigne de confinez-vous et c'est d'enlever les occasions de pouvoir se rassembler.
La distanciation
et c'est de marteler
sociale.
Le message, que tout le monde martèle le message. Prenez ces choses-là au sérieux, pas à la rigolade, pourquoi, pas de bravache, pas de bravoure.
Pourquoi,
alors
Martin
ensuite, je rajoute,
d'un mot, pourquoi est-ce que les Français n'ont pas été, le message n'a pas été entendu, même après le discours du président de la République qui a été suivi par un nombre considérable de Français?
Parce que c'est comme quand on fait un vaccin, on fait une première piqûre, puis on fait le rappel, etc. Là, il se trouve que juste le et c'est après qu'on a fait le rappel que ça marche. Là, juste le rappel et 48 heures après, etc. Donc ça va, les messages vont continuer, ils vont être martelés. Le rôle des responsables politiques ou des responsables publics comme moi, c'est de le marteler et donc de hausser le ton quand on a l'impression, soit qu'on l'a pas dit assez fort soi-même, ce qui peut arriver. Moi, je parle plus fort que je ne parlais il y a quelques jours, soit que même en parlant fort, les gens ne l'écoutent pas assez. Mais ensuite, les sujets, il faut, quand je disais, aller vite, mais pas de précipitation, c'est, vous voyez, la question des transports peut...
Parce que là, on les réduit simplement, mais en fait, il y en a encore beaucoup des transports.
Mais oui, mais la question des transports, il faut pas faire des choses contre-productives. Peut-être qu'on ira plus loin sur les limitations de transport, mais si on y va tout de suite et qu'on se retrouve avec les infirmières qui puissent plus aller à l'hôpital, on aura l'air fin, on aura fait pire que ce qu'on voulait faire. Mmh. Et à chaque fois dans les crises, quand on prend des mesures dures, il faut tenir compte de leur efficacité, de la manière dont elles sont comprises, de la manière dont elles sont appliquées, de la manière dont elles ne provoquent pas d'effets secondaires.
Mais en même temps,
les mesures de confinement peuvent avoir des effets secondaires comme un médicament peut avoir un effet secondaire si elles sont faites de manière trop absurde. Mais là, les messages sont simples. Voyez le moins de monde possible.
Mais là, on donne le sentiment malgré tout, on a cette impression qu'on accompagne l'épidémie, alors que certains pays, je pense à Singapour, a cherché à le stopper, quoi, à le casser.
Il n'est pas trop tard pour casser.
Martin,
on n'est pas en train de faire des mesures d'accompagnement, on est en train de faire des mesures de stoppage. Mmh. Encore une fois, vous voyez les chiffres, on peut avoir une proportion importante, le ministre des Questions Nationales le disait d'ailleurs ce matin, de la population qui soit concernée. Aujourd'hui...
Il est allé très loin, ce serait la moitié des Français qui pourraient être touchés par le coronavirus.
C'est une hypothèse possible.
Pourquoi 50% et pas 70% comme en Allemagne, comme le disait Angela Merkel?
Je sais pas.
Et vous-même, vous refusez de chiffrer finalement ces projections?
Je refuse pas de chiffrer.
C'est compliqué.
Je ne sors pas... Un chiffre comme ça, mais cette possibilité qu'il y a à peu près la moitié de la population, donc effectivement 30 millions de personnes qui, à la fin de l'épidémie, auront été porteuses de virus, est une possibilité que je vois dans
mais
les 35 modèles.
35 millions de personnes, 1 ou 2% de ces 35 millions de personnes qui mourraient, ce serait véritablement une catastrophe, Martin Hirsch.
C'est pour ça qu'il faut faire en sorte que, d'abord, le taux de mortalité aujourd'hui n'est pas stabilisé.
En France, il est évalué à combien ?
Non, il est difficile à dire.
Même une fourchette, c'est
pourtant on trouve des chiffres dans les journaux, beaucoup d'experts en balancent régulièrement.
Oui, mais moi je vous dis les choses évidemment,
vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas mesurer la létalité de ce virus en France.
Moi je peux pas donner un chiffre, je vais vous dire ça, c'était une des questions hier qu'on se posait. Parce que aujourd'hui, on a du mal sur le dénominateur, c'est-à-dire savoir combien de personnes sont porteuses du virus. Ensuite, on a du mal à indiquer quelles sont les classes d'âge qui sont concernées actuellement. Quoi. Tout ça peut avoir un impact avant que ça stabilise.
Mais imaginez,
ce qu'on peut dire,
on dit 50% de la population, comme Jean-Michel Blanquer aujourd'hui, 35 millions de personnes ou 30 millions de personnes, si la létalité est de 1%, hypothèse basse.
Oui, pas forcément basse.
Ça veut dire
non, et pas forcément basse. C'est pas une hypothèse.
Ça veut dire 300
000
personnes.
C'est pas un taux absurde qu'on écarte, mais c'est... Bah,
Pour parler clairement, est-ce que c'est pas ça qui a quand même fait que tout d'un coup, en une semaine, le discours des scientifiques est devenu beaucoup plus catastrophique?
Oui, bien sûr. Beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave que la semaine d'avant. Beaucoup plus grave, oui. Mmh. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, le nombre de décès sera influencé par la dynamique de l'épidémie. Pas simplement par... On peut avoir moins de décès à 30 millions... si c'est plus étalé que de décès à 28 millions, si c'est plus fort et plus violent. Mmh. C'est ça le message important. Vous voyez, c'est...
Oui.
Ensuite, on connaîtra un peu mieux le taux de mortalité, le taux de mortalité par âge, on le connaîtra un peu mieux jour après jour.
Alors, il y a
et donc je préfère que ça soit des scientifiques collégialement qui vous disent quel est leur degré pivot que moi qui le dise de manière approximative.
Il y a un propos du chef de l'État jeudi qui était resté un peu elliptique, c'était de dire au fond une première vague peut toucher les personnes âgées et une deuxième vague peut toucher des personnes un peu plus jeunes. Vous pouvez expliquer ce phénomène ?
Martin Hirsch.
Alors, ce qu'il y a derrière ces termes, c'est que comme d'autres virus, le virus est d'autant plus grave que les personnes sont fragiles. Et le grand âge est un facteur de fragilité. Donc, on peut considérer qu'il peut effectivement qu'on peut voir davantage de personnes en état grave parmi les personnes âgées, puis ensuite que le virus. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des choses qui doivent rendre prudent sur ces termes-là. Quand on voit l'âge moyen des personnes en réanimation, ça ne veut pas dire l'âge moyen des personnes qui meurent. Hein. Il y a peu de décès en ce moment. L'âge moyen des personnes en réanimation, il est entre 60 et 62 ans. Mm. Voilà. Il n'est pas à 70 ou 80 ans.
Mais on parle de très nombreux cas de trentenaires, par exemple, qui n'avaient pas d'antécédents médicaux et qui se retrouvent malades.
On parle de cas,
malades.
Pas très nombreux, mais de cas.
Dans les hôpitaux, vous pouvez donner là, pour le coup, une estimation dans les hôpitaux de Paris, au moins ?
Je ne l'ai pas sur moi.
Pardon, mais donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore, Martin Hirsch, sur le Covid-19.
Ah oui, bien sûr, c'est ce qui explique, quand vous disiez les scientifiques, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, bien évidemment. Regardez, ça fait partie de cette spécificité de la crise. Le Covid-19 n'existait pas il y a 3 mois, on a l'impression que c'est il y a 3 siècles, quand on regardait les premiers cas en Chine, n'existait pas il y a 3 mois. Son comportement est peu connu, donc il y a toujours des inconnus sur son mode exact ou sur de transmission, sur les interactions avec les traitements. Vous avez vu du coup les messages d'hier sur attention, etc. Je voyais même sur des choses,
oui, mais
les médecins débattaient de savoir à quel moment il faut donner des corticoïdes ou pas à certains patients en réanimation, si ça allait les sauver ou les... Voilà, il y a des tas de choses qui sont pas connues.
François Fressoz ou Karine Becker.
Depuis des mois, en fait.
Mais il y a des tas de choses qui sont suffisamment connues pour agir.
Ce que vous dites, pardonnez-moi, est presque effrayant, en tout cas depuis des mois.
Je ne voudrais pas que ça soit effrayant. C'est grave, c'est sérieux, c'est responsabilisant, c'est etc. Voilà, il faut être du côté où...
Est-ce qu'on a raison d'avoir
peur,
Martin
début...
Hirsch ?
Ça dépend.
Est-ce qu'on a raison d'avoir peur ?
Alors, si la peur est le début de la sagesse, oui.
Oui, voilà.
Si la peur devient mauvaise conseillère, non. Pardon de répondre cette formule-là.
Non, mais vous avez raison.
Je vais pas dire aux gens, moi, quand je vois les gens, c'est prenez au sérieux. Mmh. Voilà. Ensuite, la peur, elle peut être du bon côté. Voilà. Donc, la peur, début de la sagesse, oui.
Sauf que depuis des mois, on dit que notre système de santé, on en entend beaucoup parler, on le dit à bout de souffle, on le dit fatigué. Donc, du coup, on s'interroge, on se demande, est-ce qu'il va être en capacité de résister ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça ?
Alors. Est-ce que le système de santé était dans une situation difficile ? La réponse est oui. Quoi. Moi, j'allais sur les ondes où je discutais avec les équipes sur « il nous manque des infirmières, on a des difficultés voilà. ». Donc, on a commencé dans des conditions qui sont plus difficiles que y a quelques années où le problème de recrutement des infirmières ne se posait pas. Ensuite, à l'inverse, le côté mobilisation générale a des effets massifs, parce que tout le monde en a conscience, a des effets massifs sur les possibilités de recrutement. Je profite de l'antenne pour redire aux infirmières que nous appelons, qui sont parties à la retraite ces dernières années et qui sont appelées chaque jour, et je remercie celles qui ont déjà accepté, qu'on a effectivement besoin d'elles, pas pour les exposer au risque, mais parce que on a besoin que il y ait, comme dans des batailles, qu'il y ait des gens qui puissent monter au front, qui puissent se reposer un peu, etc.
C'est très intéressant parce que vous disiez tout à l'heure, l'héroïsme, c'est de se mettre en retrait. Comment est-ce que vous mobilisez les personnels de santé qui font du burn-out, qui n'en peuvent plus de l'hôpital, Comment vous leur dites, revenez travailler avec quand même un risque d'infection fort? Est-ce qu'il y a quand même une carotte? C'est quoi la carotte? C'est le civis? Sur quoi vous comptez mobiliser le civisme, les personnels de santé?
Le civisme est une valeur, c'est pas un légume, c'est ni une carotte ni un navet. Non, mais le civisme a une force, le civisme, l'engagement, le professionnalisme a une force qui transcende tout. Elle est pas en soi protectrice, mais elle est remarquable. Si on peut s'arrêter une seule seconde là-dessus.
Oui, bien sûr.
Et les difficultés, non seulement ne se sont pas diminuées, mais là, on est face à des difficultés massives. Mais je peux vous dire que la proportion de scrognogneux a chuté.
Oui, mais le nombre de personnel épuisé n'a pas chuté.
Ils en pensent pas moins. C'est dur.
L'épidémie arrive dans un moment très particulier pour l'hôpital public où on sait que les équipes sont sous tension, qu'il y a des problèmes.
Il est doublement particulier. Il était particulier jusqu'à il y a
le système de santé publique est dans les pires conditions pour affronter l'épidémie de coronavirus.
Non, je ne dirais pas ça.
Alors que diriez-vous?
Je dirais qu'il serait dans les pires conditions si les gens se comportaient mal. Il peut se trouver dans les meilleures conditions si se continue le comportement que je vois. Et encore une fois, je leur dis pas allez vous sacrifier et je leur dis pas je ne connais pas vos difficultés et j'espère tous qu'effectivement cette reconnaissance existera dans tous les sens et que à chaque fois les épidémies permettent de si on a beaucoup de lits à pression négative aujourd'hui, si on est mieux équipé aussi qu'on l'était il y a 10 ans, c'est parce qu'on s'était préparé au moment de H1N1 ou au moment d'Ebola, même s'il n'y a pas eu d'Ebola sur le territoire, etc. Il y a aussi des choses qui ont été préparées et qui se font. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'on est dans les, j'aurais dit qu'on était dans les pires conditions si les gens avaient le pire comportement. Comme les gens ont le meilleur comportement, on va être dans les meilleures conditions. Elles seront super difficiles, mais elles seront les plus efficaces.
Vous êtes même dans la méthode.
Pas tout en même temps.
Non, je suis pas dans la méthode Coué. Non, alors là, non, la méthode Coué, c'est dangereux. Je suis pas dans la méthode Coué. Je suis dans la reconnaissance de ce qui se passe et dans la mobilisation. Les gens qui se mobilisent, c'est hyper.
Mais restons un instant encore sur la reconnaissance que vous voulez effectivement accorder à ce personnel soignant qui va être quand même sursollicité.
Oui.
Françoise Fressos parlait de carottes. Oublions ce mot-là, mais malgré tout, il va falloir les rétribuer, ces gens-là,
oui.
Non, pour ce qui est.
Oui, oui, bien sûr.
Il y aura des primes.
Il y aura des primes.
Je pense.
Vous pensez?
Non, mais
rien n'est calé pour l'instant. Mais
ces jours-ci. On se dit, on garde dans un coin de notre mémoire que, etc. On s'est pas dit, on va fixer le taux de la prime ou etc. Mais
ça vous
paraît
une évidence.
Moi, tous les leviers qui seront disponibles chez moi pour leur dire, je vous ai demandé d'y aller beaucoup. Je vais pas leur dire une fois que c'est passé, merci.
C'était formidable.
Mais voilà. C'est... Ensuite, j'ai pas d'annonce de prime à faire aujourd'hui. Mais par ailleurs, voilà, le message que je fais, parce que je pense qu'il y a beaucoup de soignants qui sont au boulot aujourd'hui. Il y en a d'autres qui écoutent. Je leur dis, je vais pas vous faire une annonce de prime à France Inter ou à la place du ministre ou du président de la République. Jamais de la vie. Mais effectivement, on sera à vos côtés pour défendre cela parce qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel sur lequel vous donnez le meilleur de vous-même et continuez à le faire. Merci infiniment. Et on est là à vos côtés, complètement solidaires.
Alors, Françoise, vous disiez, je lance justement un appel aux infirmières. De combien avez-vous besoin? Qui a répondu aujourd'hui à l'appel? Et qui sont encore les réservistes possibles que vous pouvez solliciter? Quel est leur nombre?
Alors, le nombre peut être très important parce que ce qui va se passer dans les jours qui viennent, c'est que les frontières qu'il y a entre d'un côté un hôpital public qui fait certaines choses, des cliniques privées ou d'autres compartiments du soin qui font d'autres choses, tout cela est en train de se mettre ensemble pour unir ses forces. Donc ce qui veut dire, par exemple, que je le vois déjà au sein de l'hôpital public, des ressources qui sont très importantes, qui sont les médecins anesthésistes réanimateurs, qui étaient très nombreux à avoir leur journée pleine parce qu'ils s'occupaient d'endormir les patients pour lesquels il y avait une prothèse de hanche. Vous savez, cette prothèse de hanche dont on s'est dit, tiens, je vais peut-être la faire plutôt en mars pour être tranquille pour les ponts de mai. J'aurais peut-être pu la faire à l'automne en revenant de vacances, etc. Donc ceux qui pensaient mars, ça sera l'automne, etc. Donc ça dégage beaucoup de temps de médecins anesthésistes dans les hôpitaux publics. Ça
repousser va à plus tard aussi toutes les opérations qui ne sont pas urgentes, pour
exactement
le dire rapidement.
Et tout notre boulot, et on le fait très sérieusement, il est difficile, mais il sera bien fait. Il y a des opérations qui sont programmées, c'est pas la même chose. On vous a dit de venir plutôt au mois de mars parce que vous avez un début de cancer, il faudra opérer, c'est pas au jour près, c'est un jour. Ça restera des choses qu'on prendra en charge. En revanche, Vous aviez la cataracte, vous étiez, etc. Tout cela pourrait être retardé.
Et ça sera la même chose. Et il y a aussi parmi les malades ou les personnes qui sont porteuses du coronavirus et qui sont infectées, un tri qui sera fait parmi les populations pour d'abord s'intéresser au cas des plus jeunes plutôt qu'au cas des aînés et des seniors, comme ça a été le cas en Italie, et une situation dont se sont émus beaucoup d'Italiens et même des membres du personnel médical.
Alors, Martin Hirsch. On va pas traiter ce sujet à l'emporte-pièce. Ce qu'il faudra faire, il faudra comprendre, c'est que quand les réanimateurs jugeront que la réanimation n'a comme effet que de prolonger de 8 jours ou de 15 jours ou de 3 semaines, ils feront le rationnel qu'ils font hors déjà période de crise, mais de pas se lancer dans une réanimation dont la conclusion est déjà connue. Voilà, c'est cela. Alors ensuite, est-ce que cela se traduira par avoir défini des catégories pour lesquelles on sait que ça n'a pas de chance? C'est tout ce travail qui est fait, qui fait que tout le monde est en train de mettre toutes ces données sur les cas en réanimation pour savoir. Là, le recul est très faible parce que les gens rentrent en réanimation pour une durée qu'on ne connaît pas bien, oui, et probablement plus longue que la durée de réanimation nécessaire pour d'autres types d'infections respiratoires. Voilà, donc ça.
Mais c'est une responsabilité terrible qui pèse sur les médecins dans ce cas de figure.
Aujourd'hui, la responsabilité terrible dont les médecins ont l'impression qu'elle pèse sur eux, c'est effectivement d'en faire le plus possible, d'être hyper organisé, de convaincre les autres qu'il faut se mobiliser à fond. C'est celle-là la plus importante.
Mais ce que dit Ali, finalement, c'est l'ampleur, peut-être, qui sera difficile à assumer pour les médecins. Parce que je comprends bien, quand je vous entends, qu'ils ont l'habitude de faire ces choix-là. C'est des, oui, choix qu'ils ont appris à faire en conscience. Oui. Simplement, quand on doit le faire plusieurs fois par jour, oui, ça, j'imagine que ça commence à devenir compliqué, oui, à assumer. C'est sans doute, oui, traumatisant.
Oui. Martin, oui, Hirsch.
Oui. Est-ce qu'on peut imaginer, oui, que le comité d'éthique se saisisse,
soit saisi? Il est saisi déjà.
Il est saisi.
Il est saisi déjà.
Mais et c'est lui qui donnera les consignes. Comment ça va se passer, en fait?
Le comité d'éthique donne pas des consignes, en fait. Il
est consulté.
Il donne un certain consensus.
Préconise.
Voilà, il donne un état d'esprit ou des choses qui permettent justement aux individus de pas se dire est-ce que je fais et c'est parce que je l'ai décidé moi-même ce que pense d'avoir débattu publiquement les choses.
Est-ce que vous manquez de moyens aujourd'hui dans les hôpitaux, très simplement, de masques, de matériel d'aide respiratoire, de matériel de protection, tout simplement, pour faire face à un afflux massif de malades?
Alors, je n'en manque pas à 12h37 là. Mais j'ai un certain nombre de choses sur lesquelles je sais qu'il faut s'approvisionner, trouver d'autres sources d'approvisionnement.
Il n'y a pas assez de masques chirurgicaux
pour tenir dans la durée.
Les masques FFP2 dont on a beaucoup parlé et qu'il faudrait porter, disent certains, pour vraiment ne pas courir de risques, ils ne sont pas en nombre suffisant, Martin Hirsch.
Non, alors c'est pas ça la question des masques est super compliquée pour deux raisons. D'abord, la doctrine n'est pas complètement unanime sur les conditions de portage de masque. Vous avez certains hygiénistes qui disent « si je demandais à tout le monde de porter un masque tout le temps, les gens qui n'ont pas l'habitude de le faire, ils passeraient tellement de temps à mettre leurs mains au visage pour vérifier que le masque tient bien, etc. »
Pour ceux qui nous écoutent, il faut dire que les masques FFP2 ne ressemblent pas à ces
masques. Je reviendrai sur FFP2. Je dis masques chirurgicaux
traditionnel,
classique, celui qu'on vous donne quand vous allez voir un patient,
un membre de votre famille qui est malade, par exemple,
oui,
et que vous rentrez dans sa chambre.
Je reviens au masque, je fais juste une parenthèse là-dessus. Dans les mesures difficiles qu'on a prises et qui font souffrir tout le monde, c'est de limiter les visites à l'hôpital. Je sais que c'est hyper.
Les visites des familles peuvent même, dans certains cas, être interdites.
Oui, bien sûr.
Ça, c'est terrible.
Oui, c'est hyper
même
pénible.
Les familles de personnes qui
les soignants, sont en soins palliatifs. C'est la remontée la plus forte que j'ai de la part des soignants. Qui gère des exceptions, mais il faut que tout le monde comprenne que pourquoi on fait cela pour pas avoir une diffusion de l'épidémie dans un service gériatrique.
Parce que c'est vrai que la solidarité, Ouais. C'est d'abord.
Ouais. Là, c'est pour ça que je dis que celle-là, cette mesure-là est utile et très compliquée à vivre, à comprendre, etc. Je reviens au masque 2 secondes.
Oui.
On parlera des FFP2. Les masques chirurgicaux banals. Donc, certains peuvent considérer que ça serait bien que tout le monde en porte, tout le monde à l'hôpital, tout le monde dehors. D'autres disent attention, si vous les portez n'importe comment, en fait, le fait que vous mettiez votre main sera un peu plus dangereux. Mais effectivement, on ne peut de toute façon, en ce moment, pas dire masque à tous, parce que dans ce cas-là, ceux qui en ont le plus besoin n'en auraient plus parce que les stocks partiront en 2 secondes. Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on va récupérer des masques de Chine? Est-ce qu'on va trouver d'autres moyens de fabriquer davantage de masques pour être un peu plus tranquille là-dessus? Dans ma checklist du matin,
oui.
J'ai plein de choses qui reviennent tout le temps. Masque revient tous les matins.
Tous les matins.
Encore une fois, je sais équiper ceux qui ont des consignes de porter de masques aujourd'hui, demain, après-demain. Mais j'ai besoin de me projeter dans 8 jours, dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 1 mois. Et donc ça, c'est un des sujets qui est sur la checklist tous les matins.
Et les FFP2, ceux qui ressemblent, ceux qui ont vu la guerre des étoiles au masque d'un Star Trooper, d'un Storm Trooper.
Donc les masques FFP2, le consensus qui consiste à dire que globalement, la différence de protection n'est pas majeure pour ce virus-là, et que, du coup, le réserver à celles et ceux qui font des soins invasifs, c'est-à-dire qui sont face à quelqu'un dont ils vont faire une aspiration bronchique, par exemple, ou d'autres masques invasifs, est d'abord quelque chose qui est assez établi. Je pense qu'il y a quelques gens qui pensent qu'il faudrait être plus, mais globalement, c'est le consensus. Et ce consensus peut être respecté. On n'a pas de problème pour fournir tous ceux qui en ont besoin ces semaines-là.
Karine Becker.
Dans la question des moyens, on a tous observé cette Chine capable de bâtir, de construire des hôpitaux en une semaine. Est-ce qu'il est sur la table aujourd'hui en France la possibilité de mettre en place, alors peut-être pas des hôpitaux bâtis en une semaine, mais des structures de soins et d'isolement éphémères comme ça, rapides, nécessaires?
Alors, Martin Hirsch.
Je pense que en France, où la situation des hôpitaux, de la population, etc., n'est pas la même qu'en Chine, on a plutôt intérêt à utiliser des locaux existants et la faire changer de vocation.
Des gymnases, c'est ça que vous voulez dire ?
Non, déjà, qu'une grande partie des locaux de nos hôpitaux qui pouvaient être utilisés pour des hôpitaux de jour, etc., soient mobilisés plutôt pour avoir des malades alités, y compris en ayant des respirateurs, faire des chambres qui ressemblent à des chambres de soins intensifs. Même chose dans d'autres établissements sanitaires, plutôt que d'aller coller des paquets d'Algeco pour essayer de faire un record du monde. Donc je pense, de ce que je vois, on travaille là-dessus pour amplifier, je pense que c'est pas d'aller chercher des grues pour faire qui sont nécessaires aujourd'hui. Est-ce que on aura besoin de lieux, et on a commencé à le faire, qui sont pas des lieux de soins, mais des lieux qui permettent de protéger? Vous êtes dans une collectivité vous pouvez être lié ou en contact avec quelqu'un qui est porteur du virus. Est-ce qu'il pourra vous trouver des endroits où on puisse vous héberger quelque temps, non pas parce que vous soyez malade, mais pour éviter que vous le soyez, ou parce que vous êtes porteur du virus et pour éviter que vous le transmettiez?
Vous isolez.
La réponse est oui. Nous, on en a un déjà, on est en train d'en faire un deuxième, il pourra probablement en faire d'autres.
Françoise Fressoz.
Vous disiez que l'un des enjeux, quand l'annonce a été faite jeudi, c'était au fond d'assurer des gardes pour les enfants des soignants.
Oui.
Où vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à garantir au fond une garde?
Oui.
Oui, comment vous avez fait alors?
Alors, comment on a fait entre le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé, les agences régionales de santé, qui jouent un rôle majeur. Je fais juste une petite parenthèse. Je me souviens de l'époque où il y avait des critiques sur les ARS et la technocratie. En période de crise, je peux vous dire...
Elles existent toujours, les critiques. Mais...
Ouais, sans, ça serait plus compliqué dans ces moments de coordination extrêmement forte. Je le dis parce que voilà, on peut changer de... on s'est vu. Pour ce qui me concerne, puisqu'on a beaucoup d'hôpitaux à Paris, avec la mairie de Paris. Donc, on a eu vendredi soir, la certitude que tous les établissements scolaires accueillaient les enfants de soignants. J'ai entendu, si effectivement, par ailleurs, vous êtes soignant et que vous avez un conjoint qui reste au foyer, vous n'avez pas besoin d'emmener votre enfant à l'école, ça va de soi. Mais tous les enfants de soignants pourront être accueillis dans les écoles. En tout cas, c'est ce qui se passe demain matin. Est-ce qu'ensuite, on rationalisera entre les écoles, peut-être, mais demain matin, c'est ce qui se passe. Dans les crèches, nous, dans nos hôpitaux, on garde toutes nos crèches ouvertes. On a fait en sorte que les enfants de non-soignants qui avaient accès à nos crèches n'y aillent pas demain pour avoir davantage de place et pouvoir continuer à garantir une solution pour tous.
Martin Hirsch, est-ce qu'il faut très simplement se préparer à un scénario à l'italienne ?
Il y a quelques jours, on demandait un scénario à la chinoise, un scénario à l'italienne. Moi, ma réponse, il faut continuer à construire que le scénario à la française soit le meilleur possible pour tous. Voilà. Parce que scénario à l'italienne, je ne sais pas ce que ça veut dire dans votre bouche. Il y a trois jours, les gens disaient scénario à l'italienne pour dire scénario.
Ça veut dire la vie confinée.
Oui, mais il y a les mêmes disaient scénario à l'italienne, ça veut dire le n'importe quoi et le spaghettini italien. D'autres disaient scénario à l'italienne, c'est la dureté. Donc voilà, focalisons-nous sur un scénario à la française où les gens sont disciplinés, où les gens prennent en charge sérieusement les consignes, où les consignes, ils comprennent qu'elles se renforcent jour après jour pour s'adapter au comportement et s'adapter à l'évolution de l'épidémie. Scénario à la française, c'est des acteurs de santé, des services publics qui sont pleinement mobilisés, qui donnent l'extérieur d'eux-mêmes, qui savent qu'on les reconnaîtra pour cela. Scénario à la française, c'est un peu d'organisation. Voilà, scénario à la, c'est ça, voilà.
Mais vous ne meilleur parlez pas scénario de scénario à l'européenne, pour le coup. Est-ce que cette crise n'est pas aussi quelque chose qui met en lumière des dysfonctionnements ou des manques dans le fonctionnement de l'Union européenne?
Si, alors, je ne sais pas si elle met en lumière des manques, mais elle met en lumière que l'Europe s'est construite sur un certain nombre de choses dont on pensait qu'elle s'internationalisait. Et au moment où on faisait l'Europe, on pensait qu'il y a des trucs qui sont en prérogative nationale, la santé, etc.
La santé, aujourd'hui, la compétence des États.
Voilà, donc, il faudra renforcer, bien évidemment. Mais vous avez vu, l'Europe met des moyens pour aider les États à ne pas être agenouillés face à cela, et c'est très bien.
On est face à un phénomène mondial et on se dit, si une structure mondiale avait géré l'épidémie avec des consignes un peu unifiées pour tous les pays, est-ce qu'on s'en sortait mieux ou pas ?
Martin Hirsch.
Il n'est pas trop tard pour dire cela, puisque vous avez vu que là, on parle beaucoup d'Europe et on est en Europe et on s'occupe d'Europe. On est en France, on s'occupe de France. Il y a des gens qui travaillent tout de suite sur l'Afrique, l'Amérique du Sud, etc., qui sont des continents pour lesquels le travail de l'OMS, des ONG...
Mais il y a vraiment une coopération mondiale dans le domaine de la recherche. Est-ce que ça, c'est une réalité? Parce que ça a été évoqué notamment par le président de la République.
Il y a à la fois une coopération mondiale et à la fois encore...
Parce qu'on n'a pas l'impression que ce soit le cas, par exemple, quand on écoute Donald Trump, qui préside le G7 et qui va le réunir.
Il y a un sujet sur lequel, vous, en entendant Donald Trump, vous avez eu l'impression...
Non, mais si la coopération internationale est indispensable...
Il est assez incontournable.
Oui.
Donc non, mais... il faut faire avec. Donc, oui. Comment on gère effectivement au niveau mondial? Parce qu'avec ce genre de président...
Aujourd'hui, notre sort en France ne dépend pas de ce que dit Donald Trump, donc ça va.
Alors s'il dépend uniquement de nous pour l'essentiel, est-ce qu'il faut rétablir les frontières comme le demandent certains pour arrêter la propagation du virus? Est-ce que c'est une solution ou pas, selon vous, Martin Hirsch?
Non, je ne pense pas.
Donc ça ne se règle pas au niveau mondial?
Comment?
Non. C'est pour revenir à la question initiale.
Non, mais répondez d'abord sur le rétablissement des frontières, parce que les scientifiques disaient que ça servait à rien de fermer les frontières, et pourtant les Allemands ont rétabli des frontières à Strasbourg, par exemple.
Oui. Ce que je dis, ce que disent les scientifiques, et c'est que rétablir les frontières, c'est une notion administrative, et le virus peut circuler. Donc, confiner partout est plus efficace qu'avoir à certains endroits des frontières qu'on croit solides et qui sont en fait poreuses. C'est ça le schéma. Et par ailleurs, rajouter de la complexité administrative, si demain il se trouve que c'est tel pays d'Europe qui fait le plus de masques et dont on a besoin, et de dire ah bah c'est bête, j'ai oublié quand j'ai dit fermer les frontières et du coup je peux pas avoir accès à ces masques, j'aurai rien d'eau. Donc il vaut mieux confiner partout que mettre des frontières dans certains endroits.
Donc ça doit être réglé, si on revient à la question initiale, pays par pays, et il n'y a pas une gestion de crise mondiale à...
Pardon de dire que Martin l'un Hirsch. Et l'autre, il faut que pays par pays, comme on fait aussi parfois région par région avec des autorités sanitaires avancent, et qu'il y ait une coordination entre ces pays.
Françoise.
Vous avez été dans un passé pas si lointain au commissaire aux solidarités actives. Et c'est à ce titre que je voudrais vous interroger sur, au fond, la capacité de la société française à résister à une crise d'une ampleur inédite, qui peut se traduire par un certain nombre de morts. Est-ce que vous pensez qu'on est armé collectivement pour résister à ce fléau, ou est-ce qu'on risque de voir apparaître des divisions entre générations ou entre catégories sociales ?
Martin Hirsch.
C'est une très bonne question, très, très complexe. Moi, ce que je pense, d'abord, c'est que ces dernières années, la notion d'engagement et a plutôt progressé. Donc, je trouve qu'on est mieux en 2020 qu'on l'était il y a 10 ou 15 ans.
C'est plutôt encourageant ce que vous dites, parce que ce qu'on voit, c'est des fracturations quand même assez fortes, une certaine montée de la violence. Donc, entre les deux, comment vous jugez la situation ?
De ne pas pouvoir faire une réponse, je ne peux pas vous faire une réponse scientifique.
Non, bien sûr.
Je dis quand même que je sens,
mais votre analyse,
que j'ai senti ces dernières années, que la notion d'engagement, et je pense que ça dépendra des discours des acteurs un peu influents, que si les uns et les autres, l'encouragement au civisme, à la solidarité et plutôt qu'à la violence, à l'irrationalité.
Oui, mais c'est contre-intuitif, Martin Hirsch, parce que la solidarité doit s'accompagner dans ce cas-là de l'isolement, de la vie confinée. Oui. La solidarité, c'est tendre la main à l'autre. Là, en l'occurrence, il ne faut surtout pas tendre la main à l'autre, il faut aller vite se laver les mains. Donc ça met en péril les modèles qu'on a en tête. L'enfer, c'est les autres.
Non, l'enfer, ça peut être soi-même vis-à-vis des autres. Voilà, je suis d'accord, c'est contre-intuitif de dire que la solidarité, c'est de pas faire un mouvement spontané vers l'autre, mais la solidarité, c'est aujourd'hui, c'est effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi sur le contre-intuitif. Le courage, c'est pas d'aller se mettre face au virus, c'est de s'en isoler le plus possible. La solidarité, c'est de ne pas contaminer l'autre. Mais sur cette question d'état d'esprit de la société, cette société, elle est tout le temps, c'est toujours une tempête dans un crâne, hein, entre la partie du crâne avec les mauvaises pulsions violentes, etc., et les bonnes pulsions. Je pense que les bonnes pulsions existent, qu'elles ont été plutôt travaillées ces dernières années.
Moi, vous rappeliez le. Franchement, Françoise. Dites-nous, parce que franchement, ça c'est intéressant.
Qu'on a vu se multiplier les comportements irrationnels.
Oui, pas tant que ça. Ils sont très minoritaires. C'est ce que je disais sur les hôpitaux, l'ambiance dans l'hôpital, quand je disais ma proportion de scrogneux qui a diminué, c'est-à-dire que des gens pour lesquels il y a quelques semaines vous auriez dit ils auraient été incapables de se mobiliser, et peut-être que vous auriez dit ils avaient des raisons objectives de pas être répondants, sont hyper répondants, donnent le meilleur d'eux-mêmes, malgré les difficultés.
Mais c'est une parenthèse, et les scrogneux vont revenir juste après la crise.
Pas forcément. Et le mouvement de fond, moi je l'ai vu, vous avez parlé solidarité active, mais je l'ai vu à travers le service civique, les notions de réserve, elles existent en France, alors qu'avant tout le monde ricanait sur cette notion de volontariat. Je le vois à travers les gens qui nous appellent pour proposer leur service. Voilà, donc je trouve que, par ailleurs, moi j'y crois tellement que peut-être que je suis un tout petit peu déformé par cela, mais je pense que c'est vrai. Et je pense qu'on a une responsabilité les uns les autres à aller chercher les bonnes pulsions chez les uns les autres. Là, elles sont parfois enfouies sous une couche d'égoïsme. Dégagez la couche d'égoïsme et venez, et ça sera efficace. Ça marchera. Merci à tous.
Malgré tout, et c'est une question que vous connaissez aussi très bien, lorsqu'on gère une crise sanitaire comme celle-ci, on a aussi à arbitrer quand on est au pouvoir avec des dégâts économiques potentiels. Il va y avoir des conséquences sociales majeures avec la fermeture de tous ces commerces qui ne sont pas indispensables. Est-ce qu'on doit s'attendre d'ores et déjà, par exemple, à l'explosion du chômage ?
Alors, ça, sur l'arbitrage, tout ce qui fait que la crise est pas contenue et qu'on n'est pas confiné aura des conséquences sanitaires et des conséquences économiques. Elles iront dans les deux sens. Donc on n'a pas arbitré entre choisir conséquences sanitaires et conséquences économiques. Plus on maîtrise les conséquences sanitaires, plus on est sévère sur la manière dont on les applique, moins on aura de conséquences économiques.
Ça, c'est
intéressant. Je peux pas vous dire un taux de chômage.
Et c'est vrai. J'ai l'impression que l'arbitrage, c'était justement de dire, au fond, il faut quand même favoriser l'activité économique et sociale le plus longtemps possible pour éviter.
Parce que tant qu'on n'est pas face à cela, on est tous soumis aux pressions de s'il te plaît, n'en faites pas trop. Voilà. Mais plus personne ne peut dire qu'il y a quelque chose où on en ferait trop. On peut faire de manière trop précipitée, on peut faire mal, mais on n'en fera pas trop.
Voilà. On n'en fera pas trop.
Ah non, on n'en fera pas trop.
Pourtant, il reste des étapes qu'on pourrait franchir.
Exactement, mais encore, oui, bien sûr qu'il reste des étapes qui pourront être franchies.
Quelles seraient ces mesures exceptionnelles qui pourraient être prises dans les jours, semaines qui viennent?
Je
c'est
suis pas devin.
La fermeture des transports publics.
Ou la restriction des accès au transport, ou ce genre de choses, si on estime que le virus circule encore trop et qu'on peut être efficace. Mais aujourd'hui, pareil, quoi. Ça dépendra. Si télétravail passe de 5%, 10%, 25% en 2 ou 3 jours, du coup, il y aura moins de monde dans les transports. Du coup, il y aura ça. Ça aura un effet qui sera déjà un effet important. C'est ce type d'exemple que je donne.
Une question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi ne pas tester tout le monde, Martin Hirsch?
Alors, pourquoi ne pas
pour avoir un état des lieux réel, objectif de la situation, pour que chacun sache où il en est et qu'il puisse prendre ses dispositions.
Alors, il y a 2 choses. C'est que si on teste quelqu'un à 12h54 aujourd'hui et qu'il est négatif, il peut être positif 2 heures après et donc il va avoir le comportement le plus absurde
ça,
en se sentant protégé.
Toute épidémie.
Comment ?
C'est le principe de toute épidémie.
Non, c'est le principe de tout virus dont l'apparition se fait à un moment donné et pas à un autre moment. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tous les médecins considèrent aujourd'hui qu'il faut effectivement plutôt concentrer les capacités de test sur les patients graves ou sur les patients ayant des signes. Ce qui ne veut pas dire qu'on fasse pas de l'échantillonnage qui est en train de se faire en population générale pour prendre un certain nombre de patients, mais pour avoir une vision de où on en est, il vaut mieux faire de l'échantillonnage que d'essayer d'envoyer tout le monde se faire tester. En plus, si on envoyait tout le monde se faire tester, c'est complètement contraire avec l'idée de confinement.
Oui, voilà. Le 15, Martin Hirsch, le 15 qui est saturé, le 15 qui est très difficile à joindre, et pour le coup, même pour d'autres maladies, si quelqu'un fait un infarctus et qu'il appelle le 15, il aura le plus grand mal à trouver un interlocuteur. Comment répondre à cette situation qui, pour le coup, met en danger d'autres malades
là,
que
non.
ceux qui seraient porteurs du
coronavirus? On est en train de passer d'une phase dans laquelle la consigne unique était appelé tous le 15 pour éviter les services d'urgence. On va probablement maintenant, soit spontanément, soit avoir à dire que dans certains cas, nombreux, soit on pourra utiliser nos applications pour pouvoir se brancher via une application plutôt que de faire un numéro de téléphone, soit appeler plutôt son médecin traitant, etc. Toute
ça,
une série
important
de choses.
Vous le disiez. Hein,
voilà.
Ça, c'est important.
Mais je le dis avec des conditionnels, parce que dans une crise, il faut de l'ordre. Moi, je ne suis pas responsable des autorités sanitaires, donc je suis là pour expliquer les consignes quand elles sont données. Je suis pas là pour les donner. Je suis là pour les appliquer dans mes hôpitaux, influencer éventuellement les consignes, mais il faut de l'ordre. Voilà.
D'un mot.
C'est juste pour dire que le raisonnement qu'on s'apprêtera à faire et qui fera que du coup le 15 pourra continuer à répondre. Quand il y a du corona, il y a aussi des gens qui ont des coronaires qui nécessitent d'être pris en charge.
L'émission se termine, Martin Hirsch. D'un mot, comment peut-on aider les soignants, les hôpitaux?
En restant chez soi, en étant confiné, en faisant rien d'inutile qui fasse qu'on puisse transmettre le virus ou le recevoir et du coup ajouter des malades évitables aux malades qui seront inévitables.
Merci Martin.
Et puis en leur disant merci, en sachant qu'ils se décarcassent comme jamais pour vous.
Merci infiniment Martin Hirsch d'avoir répondu à nos questions. Je signale à nos auditeurs que 13h, 14h sur France Inter, il y aura une édition spéciale présentée par Pierre Veil consacrée à la crise du coronavirus. Le standard est d'ores et déjà ouvert. Appelez-nous, la France est confinée, mais toutes vos questions, vous pouvez les poser au 01 45 24 7000 et entre 18 et 19h, téléphone sonne spécial avec Sébastien Paour pour intervenir là aussi, le 01 45 24 7000, et à partir de 19h, évidemment, la soirée spéciale électorale animée par Claire Servageant. Merci à tous et à la semaine prochaine.